Aujourd'hui, on prend une pause sur le sujet qu'on est en train de faire, on parlait de la marche par l'esprit, pour parler d'un sujet qui est le sujet d'actualité présentement. Ça fait partie des choses que Dieu a annoncées depuis le début avec Moïse. Dieu a établi des fêtes. Il a dit au peuple d'Israël de fêter des fêtes. Puis là, on va parler des fêtes perpétuelles de Dieu. Les fêtes que Dieu a créées, c'était des fêtes perpétuelles. Ça veut dire que c'était des fêtes qui devaient être fêtées tout le temps de l'existence. Ça n'a jamais été des fêtes juste pour ce temps-là. Puis pourquoi qu'on va dire cela? C'est parce qu'il y a des messages prophétiques dans ces fêtes. Des fêtes perpétuelles qui ont été instituées par Dieu. C'est pas les humains qui ont installé cela. C'est Dieu. Puis Dieu avait un plan précis quand il a fait ces fêtes-là pour révéler quelque chose dans le temps de la grâce. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On verra pas les fêtes du printemps, parce qu'on a parlé déjà des fêtes du printemps. En tout, il y a les 7 fêtes de l'Éternel, les fêtes du printemps, puis il y a les fêtes de l'automne. Puis qu'est-ce que la Bible nous dit à propos des fêtes? Que les fêtes de Dieu, les fêtes du Seigneur, je parle pas les fêtes que le monde a instituées, c'est des fêtes qui sont l'ombre des choses à venir. Ça nous est dit dans le Nouveau Testament. Il dit que personne ne vous juge au sujet, ça dans Colossiens 2, 16 et 17, ça dit que personne ne vous juge au sujet du manger du boire ou au sujet d'une fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Aujourd'hui, on est en Jésus, mais les fêtes, c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire, ça voulait dire quelque chose pour aujourd'hui. Les fêtes, dans ce temps-là, étaient l'ombre. La vraie fête, c'est le message qu'on a aujourd'hui. Ce que Dieu a voulu révéler aux gens. Puis ce qui s'est accompli, Dieu a accompli des choses à la fête de Pâques. On a vu quelques-unes. On va juste survoler les fêtes qu'on a déjà parlé. Mais là, aujourd'hui, dans le message, je vais vous parler plus des fêtes de l'automne. Elle avait un sens pour le peuple juif, les fêtes qui ont été fêtées par le peuple juif pendant des siècles et des siècles, des 1000 ans, 1500 ans que ces fêtes-là ont été fêtées, avaient un sens pour les juifs dans ce temps-là, mais c'est à l'ombre des vraies affaires qui sont aujourd'hui. Puis quand que Jésus est venu, les fêtes ont tout un nouveau sens, mais à travers le Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le corps il est en Christ. Le corps de la fête, le message principal de ce qu'on doit retirer comme instruction de ces fêtes-là, ça a le rapport avec Jésus. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps, je pense, de au moins de regarder puis de comprendre ce qu'il y a le message que Dieu a voulu nous dire là-dedans. Les fêtes de l'Éternel, ils parlent du temps des moissons d'une année. Parce que toutes ces fêtes-là devaient être fêtées dans un an, puis il y avait les fêtes du printemps, puis il y avait les fêtes de l'automne. Quand il dit les fêtes du printemps, c'est parce qu'eux autres, il y avait un petit peu plus de chaleur que nous pendant le temps de culture, fait qu'ils pouvaient avoir plusieurs cultures dans leur année. Mais il y avait les fêtes du début de la saison, puis les fêtes à la fin de la saison des récoltes. La période de la moisson du printemps jusqu'à l'automne, ça nous parle de la durée du temps de la grâce. On va voir que les fêtes ont rapport avec pour un message dans le temps de la grâce qu'on est présentement en Jésus. Les fêtes du printemps étaient pour le début du temps de la grâce, puis les fêtes de l'automne, c'est pour la fin du temps de la grâce. Quand on parle des fêtes du printemps, qui est une figure de la période de la grâce, mais les 4 premières au début ont un sens prophétique. On l'a vu, j'en ai parlé. Ceux qui veulent plus de détails, je vous encourage à aller les écouter sur l'Internet. Ils sont si vous cherchez le mot « fête » dans les choses, à la voix, les différentes prêches que j'ai prêchées dernièrement. J'ai parlé sur la fête de Pâques, qui parle de la mort puis de la résurrection du Seigneur. Juste ça comme exemple, là. La fête de Pâques, quand elle s'est instituée, c'était pour dire qu'il était sorti de l'Égypte, puis que le sang il avait été mis sur le cadrage, puis l'ange de la mort passait. Ça, c'était la fête qu'eux autres fêtaient. Ils se réjouissaient d'avoir sorti d'Égypte. Mais le sens spirituel, Jésus, il est mort, il est l'agneau de Dieu. Pareil comme dans l'ancien temps, c'était l'agneau qui a mis son sang. C'est le sang de l'agneau qui a été mis sur le cadrage pour épargner un jugement. Mais aujourd'hui, dans le temps de la grâce, c'est Jésus qui a versé son sang, qui est l'agneau de Dieu pour enlever le péché du monde, puis qui nous fait échapper du jugement à venir. Voyez-vous, il y a un parallèle entre ce qui était enseigné dans la fête de Pâques dans l'Ancien Testament, puis ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. Puis c'est la fête de Pâques, c'était le début du temps de la grâce dans le Nouveau Testament. Le début d'une nouvelle ère, l'ère de Christ, de prêcher la bonne nouvelle, du salut des âmes. Puis tout le reste s'ensuit. Si on regarde la deuxième fête du printemps, c'est la fête des pains sans levain. Ils devaient se rappeler du temps qu'ils ont eu en esclavage en Égypte, puis ils mangeaient du pain puis du levain dans ce temps-là. Pour nous, la fête des pains sans levain, ça représente notre vie de péché qu'on vivait avant d'être à Christ, puis qu'on repasse à Jésus pour être sauvé. C'est comme on se rappelle, faut se rappeler ce qu'on était avant, puis ce qu'on n'est plus aujourd'hui dans l'esclavage puis les souffrances de ce monde à cause de nos péchés. C'est notre esclavage à nous. On fête, ça a un sens spirituel pour nous. Il y a aussi les prémices, la fête des prémices au printemps. La première récolte, les premières gerbes qui poussaient le lendemain de la Pâque, le lendemain du ce qui se trouvait être le premier dimanche après la fête des pains sans levain, il allait offrir les premières gerbes, offrir ça devant l'Éternel, puis se réjouir des gerbes qui étaient présentées. Puis ça, c'est la résurrection du Christ que ça représente, puis sa montée dans les cieux. Que c'est la première gerbe, le premier être qui a été ressuscité dans le temps de la grâce, qui est rentré dans les cieux. Il y a tous des symboles. Puis il y a aussi la Pentecôte. La Pentecôte, c'était 50 jours après la journée de Pâques. Il fêtait Pentecôte, qui veut dire 50. Il fêtait une fête qui était la fête de la première récolte. Puis la première récolte qu'il y a eu, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Puis il y a 3000 personnes qui s'est converties. Exactement, tout était timé comme Dieu avait prévu cette histoire-là, puis ça avait un message prophétique pour qui s'est accompli. L'Esprit était répandu, puis la moisson est commencée. La moisson du début du temps de la grâce, la première moisson. Là, il y en a eu pendant 2000 ans. On arrive à la fin. C'est ça qu'on va comprendre, que les fêtes d'automne, qui est la fin de la saison, ont un message prophétique pour l'Église aujourd'hui. Les fêtes de l'automne, je vais vous les dire rapidement, mais après ça, je vais rentrer un peu plus avec quelques explications. Faut pas que j'explique trop, parce que j'ai bien des versets à dire. La fête de l'automne, c'est une figure de la fin de la saison des récoltes, qui est en automne, bien entendu, mais que pour nous, ça a un symbole. Le premier symbole, vous allez voir dans les fêtes qu'on va voir, c'est que c'est la fin de la période de la grâce. Il y a une fête qui s'appelle la fête des trompettes, la première fête d'automne. Ça, c'est notre prise de conscience pour nous, l'Église, qu'on le sait, qu'il va y avoir des trompettes qui sont déjà en train de sonner. Il y a des choses qui se passent dans les trompettes, qui sont les trompettes qu'avertir. C'est des trompettes avant le retour de Jésus. C'est un message pour dire, Jésus s'en revient, les trompettes sont là, ça annonce un temps difficile, parce qu'il va y avoir des cataclysmes, il va y avoir toutes sortes d'affaires qui sont annoncées dans les trompettes, puis on le sait que c'est à la septième trompette que Jésus va revenir. Puis ça, c'est le retour de Jésus, puis qu'on a à se préparer. C'est-à-dire qu'il y avait la fête des trompettes, la deuxième fête en automne, c'est la fête de l'expiation. Il y avait une journée qu'ils devaient tous, le peuple juif, humilier leurs âmes, je vais l'expliquer un petit peu plus tantôt, pour être prêtes, pour être pardonnés. Ils devaient marcher dans une journée d'humiliation, de se repentir, confesser le péché, puis confesser le péché à tout le monde. Puis, je vous le dis, ça se fait encore aujourd'hui, cette fête-là. Les Juifs le pratiquent encore. Que la journée des expiations, ils confessent le péché, puis ils demandent s'ils ont fait de quoi avec quelqu'un, ils vont aller se repentir, pour qu'ils soient pardonnés. Puis c'était ça le message de la fête dans l'Ancien. Mais ça a un message prophétique pour nous, que là, les trompettes sont là, Dieu appelle son peuple à se repentir, à se réveiller. C'est ce qu'on parlait aussi dans les chants. Il faut se préparer pour le retour de Jésus. On va-t-il être debout, mais qu'il revienne, ou on va être en train de ronfler spirituellement? Puis il faut veiller. Puis si on est dans le péché, il faut confesser nos péchés. C'est un rappel. C'est une fête qui nous donne un rappel du retour. Puis la troisième fête de l'automne, c'est la fête des tabernacles, qui est la fête des habitations, des tentes. Pour eux autres, le peuple juif, quand il la fêtait, ils se rappelaient qu'ils ont passé 40 ans dans le désert à vivre sous des tentes. Puis ils refaisaient cela, puis c'est une fête qui durait 8 jours. Puis aujourd'hui, pour nous, les chrétiens, ça nous rappelle comment nous aussi, on vit, on n'est pas encore revêtu notre domicile céleste, puis qu'on est encore sous des tentes, dans le sens qu'on vit sous la tente notre chair. Puis on va voir des versets qui en parlent de cela, que notre vie terrestre, qu'on est des pèlerins voyageurs sur la terre, puis on s'envole au bord un jour qu'on va être avec le Seigneur. Puis, en même temps, il y avait une autre fête qui était la fête des actions de grâce pour toutes les moissons qu'on a eues. Puis, Dieu veut qu'on se réjouisse du fait, avant son retour, de prendre conscience de notre vie, comment ce qui a été difficile, et en même temps, comment ce que Dieu a pourvu. Vous allez voir que Dieu, quand il annonce ces choses-là, il y avait vraiment un plan. C'est pas des fêtes lancées de même, juste sans aucune importance. Faut comprendre, frères et sœurs, que les trois fêtes, lorsqu'ils sont comprises, là, parce qu'il faut les comprendre si on veut arriver à avoir le sens spirituel, elles sont destinées pour nous comme des avertissements à nous préparer pour le retour du Seigneur. Dans ce temps-là, c'était juste l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, c'est le corps, c'est la vraie affaire. Puis ça parle à l'Église. Faut être prête quand Jésus va venir nous chercher, puis il faut être debout, en train de travailler pour lui. On est dans les derniers jours, je pense pas que j'apprends quelque chose, les derniers jours qui sont appelés les temps des nations. Dieu a laissé, à partir d'Adam et Ève, il a laissé les gens choisir leur vie, choisir le camp dans lequel ils voulaient être, avec Dieu ou avec l'ennemi. Tout le monde, par défaut, on venait au monde dans le camp de l'ennemi, puis un jour, il faut changer de camp. On accepte Jésus, puis on est transporté dans son royaume. On est rentré dans le royaume de Dieu parce qu'on est né de nouveau. Maintenant, on marche avec le Seigneur. Mais le temps des nations, ça a commencé du début, mais les derniers temps des nations ont commencé à Jésus. Parce que là, il est en train de sortir du monde du camp de l'ennemi pour les emmener dans son royaume. Puis, ces derniers temps-là, depuis le temps de Jésus, c'est appelé les derniers temps. Mais depuis 2000 ans, on est dans les derniers temps. Fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans le dernier des derniers temps. On est dans la fin des derniers temps. Puis le message qui doit être prêché dans ce message-ci, dans les temps où nous sommes, dans Matthieu 25, 6 et 7, ça dit, dans le verset, « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre! » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent, puis ils préparèrent leurs lampes. On est dans le temps où on doit s'avertir, frères et sœurs. Jésus revient très bientôt. C'est à la porte. Puis il faut être debout quand il va venir nous chercher. Puis il y a un cri qui doit se faire lancer. Le temps où ce que l'époux arrive, on est rendu là, il est à la veille d'arriver, il y a des signes qui s'accomplissent, puis il reste quelques affaires, mais c'est bien, très bientôt. Puis on doit se réveiller puis être en train de préparer nos lampes pour aller à sa rencontre. Nous sommes dans les derniers jours, appelés le temps des nations qui ont commencé au Messie. Si on voit ça dans Luc 21-24, ça dit, en parlant d'une persécution contre les Juifs, puis que les guerres dans les nations, ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les armées jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y a un jour que ça va être fini, le temps des nations. Ça va être le temps du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va prendre le contrôle de la planète. C'est lui qui va régner avec tous ses saints avec lui pour les 1000 ans. Là, on est à la fin du temps des nations. Ça achève, là. On n'est pas supposé de trouver que c'est lourd pour nous. On devrait se réjouir que c'est la veille de finir. L'apôtre Paul nous a dit quand même, dans Actes 2, 17, qu'on est dans les derniers temps encore, dans les derniers jours. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, puis vos fils et vos filles prophétiseront, puis tout ça. Ça a commencé il y a 2000 ans dans les derniers jours. Puis Pierre, après ça, dans ses messages qu'il a emmenés dans 2 Pierre 3:3, il a parlé encore que les derniers jours, ça sera le temps aussi que le Jésus revient. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise. On est dans cette période-là. Des derniers jours où ce que le monde, il s'en fout de la Bible, s'en fout de la parole de Dieu, s'en fout de ce que Dieu a dit, il se fout de Dieu, puis il se moque de tout. Tu parles de Dieu au monde, puis c'est comme, oh, j'ai pas de temps, moi. C'est vraiment comme ce qui est écrit. Les gens en prennent pas conscience. Dieu, il va revenir. Jésus va revenir. On est dans les derniers temps. Faut que le monde réalise. Mais à qui ça va parler les fêtes d'automne? Ça va parler premièrement à l'Église. De se préparer pour être en train de servir afin qu'on ne soit pas trouvé endormi lorsqu'il va revenir. Qu'est-ce qui est annoncé par les fêtes d'automne? On va commencer avec la fête des trompettes, parce qu'il y a 3 fêtes en ligne. C'est la fête des trompettes, ça s'appelle la Rock Hoshana. C'est le jour de l'acclamation. La trompette, là, ça veut dire, ça fait du bruit, c'est une acclamation. C'est un son, c'est un bruit, puis ça peut être une voix qui crie. Dans Lévitique, le verset 23, chapitre 23, versets 24 et 25, ça dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le 1er jour du mois. » Là, il faut que je fasse un point pour vous faire comprendre que ça ne parle pas de nos années à nous. Ça parle du calendrier juif. Le 7e mois dans le calendrier juif, ça tombe à ce temps-ci. Parce que nous, on suit un calendrier lunisolaire, mais dans ce temps, qui est basé sur le soleil, puis qu'on a nos mois avec un certain nombre de jours, puis c'est pas la même chose pour les Juifs. Ils suivent, eux autres, le calendrier lunisolaire. C'est eux autres qui suivent ça. Nous autres, on suit le solaire. Eux autres, le lunisolaire, puis eux autres, ils ont des mois qui n'ont pas le même nombre de jours, puis ils ont quand même 12 mois, mais de temps en temps, ils rajoutent un 13e mois dans ce calendrier-là. Ça, c'est le calendrier qu'ils utilisaient quand ils sont sortis d'Égypte. L'idée, c'est que les dates qu'on voit là, c'est pas les dates que nous, on pense que la fête doit être célébrée dans notre calendrier à nous, c'est la fête dans leur calendrier à eux. Parce qu'ils marchent encore avec les deux calendriers, puis ils savent exactement quand est-ce que ça tombe, ces fêtes-là, afin de les faire encore comme c'est écrit. Fait qu'ils tombent à ce temps ici, on est dans la période de leur fête présentement. C'est un mois, c'est dans le même mois qu'il va y avoir les 3 fêtes. La première fête, c'est la fête des trompettes. Ça dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, une sainte convocation. Il y avait un rendez-vous divin qui a conduit une sainte convocation. Une convocation, c'est qu'il était appelé à se rassembler pour rencontrer Dieu. Puis c'est une sainte convocation parce que fallait que les gens se sanctifient puis ils rencontraient le Dieu saint. Fait que c'est pour ça que je dis souvent dans nos réunions, c'est une sainte convocation, c'est Dieu qui nous convoque à se réunir, puis on rencontre le Seigneur, puis on a sanctifié, il faut arriver sanctifié, il faut pas arriver ici dans le péché, puis comme si rien n'était, puis marcher tout croche. On s'en vient rencontrer premièrement Dieu ici dans une réunion. On s'attend à ce que Dieu nous parle, mais c'est la même chose dans ce temps-là. Les sabbats, ils se réunissaient, c'était une sainte convocation, puis c'était un jour férié où ce qu'ils devaient pas travailler, puis ils se réunissaient, toute la gang, ça se réunissait pour rencontrer le Seigneur, puis fêter cette fête-là, parce que là, on parle de cette fête-là, mais il y avait d'autres fêtes. Il dit, vous ferez aucune œuvre servile, ça veut dire, c'est ça qui désigne que c'est une journée de sabbat pour eux, ils n'avaient pas le droit de travailler cette journée-là. C'est une journée de fête décrétée dans tout le peuple juif. Puis vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce que je veux vous faire comprendre aussi, c'est que les fêtes, la manière qui était célébrée dans ce temps-là, on ne peut plus les célébrer comme que c'était célébré. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas offrir les sacrifices que tous les sacrifices qui étaient offerts dans le courant de ces fêtes-là. Il n'y a plus de temple. Les sacrifices sont offerts dans le temple à l'Éternel. Fait que s'il n'y a plus de temps, tu ne peux pas offrir de sacrifice, donc tu ne peux pas répéter les fêtes comme c'était. Tu peux peut-être suivre certains détails, mais tu ne peux pas les suivre entièrement. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que tu comprennes le message que Dieu voulait nous faire passer pour qu'on soit conscient de cela pour se préparer, parce que Dieu nous avertit par là. Quand on parle de la fête des trompettes, il l'appelle comme ça, cette fête-là, dans le mot hébreu que là, c'est trompette, qui veut dire son éclatant ou avec éclat, ou ça peut être publié au son de la trompette ou des trompettes retentissantes, ou ça peut être des cris ou faire éclater la joie ou des chants d'allégresse ou à ta voix. Parler, bon, s'exclamer bien fort. Ça a tout le même synonyme. Fait que ça aurait pu être ça parce que cette fête-là est aussi appelée le exclamation. Attendez, je pense à l'écrit ici. Le jour d'acclamation. Le jour de la fête de la trompette est aussi appelée le jour d'acclamation. Fait que c'était faire du bruit, crier fort pour fêter pour le Seigneur. C'est ça qui était l'idée. Mais pour nous, on va voir que dans le Nouveau Testament, il mentionne, on va revenir dans quelques minutes pour ça, ça pouvait être une alarme parce que le cri quand un « go » ou « ça peut être un cri de combat. La trompette était sonnée pour aller au combat, mais ça pouvait être des cris aussi. Des fois, il criait puis la muraille s'est effondrée. L'idée, c'est le bruit qui était... l'ordre comme d'avancer, puis il se passe quelque chose là par la main de Dieu. C'est un signal, c'est un son par un son de trompette ou un cri d'hurlement, un cri de guerre. Ça peut être un coup de trompette, un cri de joie, des cris d'allégresse aussi, mais ça dépend dans quel contexte que le cri t'a prononcé. Puis ça nous rappelle, comme je disais tantôt, qu'il va y avoir les 7 trompettes qui vont sonner. C'est un ange qui va sortir... Là, il va se passer des affaires sur la terre, des cataclysmes, des fléaux terribles. Un tiers de la planète va périr par la faim, des famines, des pestes. Ça parle aussi des cours d'eau. L'eau va être polluée, les poissons qui vont mourir, puis la pollution. Tout est détaillé comme quelque chose qui va tomber dans la mer, puis la mer elle va devenir plus buvable, elle va être empoisonnée. Puis on rentre là-dedans, là, avec qu'est-ce qui se passe présentement, avec la mort des poissons, la mort des crustacés, la mort des oiseaux, plein d'insectes, tout disparaît. Il y a quelque chose qui se passe présentement. Le monde peut voir passer chaud. Ah, c'est naturel, c'est nous autres qui polluent. C'est peut-être déjà la trompette qui est sonnée aussi. Le tiers monde qui creuve de faim, là. On le dit, mais on y pense pas. Il parle de le tiers de la terre qui va être dans la famine. Puis là, c'est le tiers monde qui creuve de faim, qui n'ont même pas un repas par jour. Puis on est dedans, là, dans ces choses-là. C'est des signes qui annoncent le retour de Jésus. Parce que Jésus, on le sait, il revient à la dernière trompette. Ça, c'est une grande tribulation. On parle de beaucoup de morts. Beaucoup de morts dans cette période-là. Si vous avez le temps, bien, je vous encourage à prendre le temps d'aller relire les 7 sceaux, les 7 trompettes. Ça parle d'affaires difficiles sur la terre avant que Jésus revienne, pendant qu'on est encore ici. Il ne faut pas penser qu'on est enlevé avant ça. Jésus revient à la 7e. Donc, il n'a pas sauté, chanté la 7e trompette avant de chanter la 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va être à la 7e, comme qu'il l'a dit, puis même si on espérait, même si on dit, on n'est pas destiné à la colère. Les trompettes ne sont pas la colère de Dieu. Dans le texte, ça ne dit pas que c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu est après la 7e trompette. Il parle des 7 coupes qui accomplissent la colère de Dieu après l'enlèvement. Manquez pas le retour de Jésus, parce que vous allez subir la colère de Dieu. Là, on est dans le temps de la grâce, mais Noé était sur la terre quand il y a eu le déluge, puis le déluge n'était pas pour frapper Noé, mais il a vécu quand même les conséquences du déluge, qui était le jugement de Dieu pour le reste des nations. Fait que les chrétiens vont être sur la terre pendant les tribulations, puis ils vont avoir à subir cela, mais c'est pas parce qu'on est visé. C'est parce que Dieu le dit que ça s'arrivera avant son retour. C'est pour mettre de la pression pour que les gens se repentent. Dans 1 Thessaloniciens 4:16, ça nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné. » Puis regardez bien ce qui est dit ici. « À la voix d'un archange et au son de la trompette. » Tu sais, dans Josée, tout à l'heure, la fête de la trompette, ça pouvait être une trompette ou une voix qui crie. Mais là, ça va être à la voix d'un archange et au son de la trompette. Il descendra du ciel. Jésus va descendre du ciel, puis les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire que ça nous avertit, cette fête-là, des trompettes, que Jésus revient bientôt. On est dans le temps des trompettes. Puis Jésus revient bientôt, puis mec qui arrive, mais ça va être un son de trompette, puis prête, pas prête, il revient. Ceux qui sont prêts, ils vont, puis les autres vont rester là, pour subir la colère de Dieu. Lors de la trompette, il y aura un point tournant pour notre planète. Elle ne sera plus pareille après. Quand la trompette de Dieu, puis Jésus redescend, ça ne sera plus pareil après. Le trône de la bête va être là avec son règne, puis c'est tout le monde qui a été punché, puis il y a des fléaux qui vont être déversés, les coupes de sa colère, qui vont être déversées sur le trône de la bête, puis sur tout le monde qui va être là. Ça va être horrible. Ça dit, ils vont chercher la mort, puis ils la trouveront pas. Ça va être horrible comme jugement sur la terre. C'est pour ça qu'il nous avertit par des fêtes qu'il a établies il y a 3500 ans pour nous avertir que la fête de la trompette, ça doit t'avertir pour que tu sois conscient en tant que chrétien dans le temps de la grâce, que le temps de la grâce achève, Jésus revient, manque pas ta shot, sois prête, debout, en train de servir Jésus, parce que mec, il revienne, il dit deux dans un champ, un va être pris, puis l'autre va être resté là. Deux dans un lit, l'homme et la femme. Un va être pris, l'autre va rester là. Celui qui est prêt s'en va, puis l'autre reste là. C'est quelque chose. On ne peut pas avoir plus grand avertissement que cela. Le Seigneur descendra quand la trompette va sonner. Les morts, ils vont ressusciter, puis nous, on va être enlevés avec eux. Ça, c'est notre espérance. C'est la fête de la trompette. Faintons déjà aujourd'hui pour le jour de la trompette qui s'en vient, parce qu'on sait que ça s'en vient, puis on y croit, puis on est prête, puis c'est une fête pour nous, pour qu'on reste réveillés. Amen. 1 Corinthiens 15, 51-52, il dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. » Fait qu'il y en a qui ne connaîtront pas ça, la mort physique. « Mais tous nous serons changés. » Les morts comme ceux qui étaient encore vivants. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, puis les morts ressusciteront incorruptibles, puis nous, on va être changés. Ça va être grandiose. On parle pas de tous les morts. On parle de ceux qui sont morts en Jésus. Parce que ceux qui sont pas morts en Jésus n'auront pas peur à la première résurrection. Ça, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, puis ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, puis ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Fait qu'il y a de quoi de grandiose pour ceux qui ont part à la première résurrection. Et pourquoi qu'ils ont pris part à la première résurrection? C'est parce qu'ils étaient à l'écoute de la trompette. Ils savaient que la trompette était là, puis ils avaient lavé leur robe dans le sang de l'agneau, puis ils sont prêts. Que ceux qui viennent dans le temps de la grande tribulation, il y avait une super grande foule dans le ciel, puis ils viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe, puis ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Puis là, ils servent le Seigneur jour et nuit. On est dans le temps de la tribulation présentement. On a des tribulations. Si vous ne croyez pas, allez voir les frères et sœurs qui se font tuer présentement dans d'autres pays. C'est pas à cause que nous, c'est tranquille que s'il se passe pas des tribulations quelque part. Parmi les 6 millions de Juifs puis les 50 millions de personnes qui ont été tuées par Hitler, pensez-vous qu'il n'y a pas des chrétiens qui sont fait persécuter là-dedans? Il y en a eu plein. 50 millions de morts, c'est pas une petite affaire. On parle souvent des 6 millions de Juifs. Oui, mais il y avait 50 millions de personnes. On est dans de la tribulation, des choses qui se voyaient pas grandes même avant. Oui, il y a eu des grandes guerres, il y en a eu plusieurs dans les temps. Puis on était averti qu'on entendrait parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Faut que ces choses-là arrivent. Mais nous, soyons prêts comme si on attend que l'époux revienne, puis qu'on l'attend avec nos lampes allumées. Fin partie, on part avec. Amen. Deuxième fête, qui est juste 10 jours plus tard, parce que la première, c'est le premier jour du mois, du 7e mois, tandis que la fête, l'autre fête, ça se trouve à être le 10e jour. 10 jours plus tard, il y avait des fêtes d'une journée, ces deux-là. Il y avait une autre fête qui était le jour des expiations, le Yom Kippour. Puis il y avait deux fêtes cette journée-là. Mais la première, c'était celle-là, la journée d'humiliation, le Lévitique 16, 29 à 34. Ça nous dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Encore une fête perpétuelle, ça veut dire que c'est à l'infini, ça n'a pas jamais de fin, cette fête-là. Ça avait un message 3500 ans plus tard pour aujourd'hui. Ça nous dit, au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Fait qu'il y avait une journée spéciale pour que les gens apprennent à s'humilier. Vous ne ferez aucun ouvrage, parce que ça, c'est encore une journée fériée pour les Juifs, puis ils se rassemblaient pour aller rencontrer le Seigneur, mais ça se repentait, ça s'humiliait, ça demandait pardon au Seigneur, ça demandait pardon aux autres, ça le font, ils le font encore aujourd'hui. Il dit, vous ferez aucun ouvrage, tout ça, au verset 30, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Voyez-vous, le but de s'humilier devant Dieu, puis de demander pardon, c'est dans le but d'être rendu pur, de se purifier de nos péchés. Le contraire de ça, c'est de ne pas les confesser, de le vouloir les garder, puis de vouloir vivre encore dedans. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne seras pas pardonné. Si tu veux être pardonné, il faut que tu les avoues, puis tu les délaisses, tu demandes pardon. Puis il faisait cette fête-là, pendant que tu es conscient que c'est la fête des trompettes, c'est le temps d'être conscient, c'est le temps de te repentir aussi. Fais le ménage dans ta vie, de demander pardon, de confesser tes péchés, de t'humilier devant le Seigneur, puis d'y demander de l'aide. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, puis vous humilierez vos âmes, c'est une loi perpétuelle. Cette fête-là est appelée... Le jour des expiations, le Yom Kippour, ça veut dire expiatoire, ça veut dire aussi pour le rachat. Si tu veux que Dieu te pardonne, si tu veux qu'il te purifie, il fallait que tu passes par là. C'est un jour de repentance pour que notre cœur soit réveillé et en communion avec Dieu par la repentance. Parce que le but de se repentir, c'est dans le but qu'on s'approche de Dieu. C'est pas juste pour être pardonné. Faut comprendre qu'il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. C'est vos péchés qui vous cachent sa face, qui vous empêchent d'être exaucés. C'est nos péchés qui mènent un blocage, même aux chrétiens. Pas juste, c'est pas une affaire juste dans l'ancien, ça, c'est dans le nouveau aussi. On peut pas rester dans des péchés volontairement, consciemment, surtout en plus quand c'est les commandements de Dieu. Tu peux pas continuer à pratiquer le péché, penser que tu es en communion avec Dieu, parfaitement en communion avec Dieu. Le but de t'humilier, c'est de demander pardon, confesser tes péchés, pour les abandonner, pour être plus proche de Dieu. Le but, c'est qu'on se rapproche de Dieu. Approchez-vous de moi, puis je m'approcherai de vous. Dieu était déjà prêt à vouloir être parfaitement en pleine communion avec nous, sans aucune interruption, mais faut faire le ménage dans nos vies. Dans Marc 13, 33-37, ça dit, « Prenez garde, veillez et priez, car vous savez pas quand ce temps viendra, en parlant du temps du retour de Jésus, Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, il laisse sa maison, puis remet l'autorité à ses serviteurs, il indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand votre maître de la maison, quand il viendra le maître de la maison, soit le soir ou au milieu de la nuit ou au chant du coq ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je dis, je le dis à tous. Veillez. C'est dans le Nouveau Testament et à ses chrétiens, à ses disciples que Jésus dit cela. On est présentement en train d'attendre le retour du Seigneur. On est averti qu'on est dans le temps des trompettes, puis que Jésus revient bientôt. Ça nous dit à nous, veillez à ce qu'il nous trouve endormis. Ça dit, ce que je dis, je le dis à tous. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont exempts de cet avertissement-là? Puis Dieu, c'est pas à moi que le Seigneur veut parler. Non. Dieu veut que je rentre. Dieu veut que vous rentriez, toute la gang. Puis il dit à tous, veillez. Être veillé, là, c'est d'être réveillé. C'est un réveil, là. C'est le mot réveil, c'est parce qu'on dort des fois spirituellement. Mais on a besoin d'être réveillé. Quand t'es réveillé, là, tu es conscient de ce qui se passe. Puis là, tu peux faire ce que t'as à faire. Confesser tes péchés. C'est une manière de montrer. Il dit, veillez et priez. Ça dit au début de ce verset-là. Ça a tout le même sens qu'il faut que tu sois debout, prête quand Jésus va revenir, puis pour cela, repens-toi. Ça démontre comment Dieu est patient, puis qu'il attend que tous arrivent à la repentance. Même les chrétiens. Parce que dans ce verset-là, je vais vous lire, dans 2 Pierre 3:9, ça s'adresse à des chrétiens. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. La promesse de revenir. Il use de patience envers vous, les chrétiens, envers moi aussi. Il parle pas aux gens dans le monde, il parle aux chrétiens. Ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Fait que le temps qui nous reste à vivre, c'est toujours dans le but qu'on arrive à se repentir, confesser nos péchés, comme la journée de cette fête-là, le Yom Kippour, qui disait de s'humilier, demander pardon, pour qu'on soit à jour devant le Seigneur. Mais on ne devra pas attendre de le faire qu'une fois par année. Ça devrait être à tous les jours.
Amen.
Amen. C'était aussi pour eux, le moment du jubilé. Parce que, comme je vous disais, il y a deux fêtes cette journée-là. La fête de s'humilier, puis c'est un jubilé, la fête du jubilé qui se passe à tous les 50 ans. Il y avait un relâchement des dettes entre les Juifs. S'il y avait des Juifs qui s'étaient endettés envers un autre Juif, mais cette année-là, c'était le jubilé. À cette journée-là, tout le monde qui devait de l'argent, à partir de cette journée-là, devait plus d'argent aux autres. Tombait libre. Free, plus de dette. C'est une journée de relâchement de la dette. Ça a un autre symbole prophétique qui a rapport avec repentance, libération, délivrance. C'est ça que ça parle dans la Bible. C'est un message comme qui est caché, mais il n'est pas caché dans le Nouveau Testament parce que les révélations, on les sait. Dans Lévitique 25, 9 et 10, Verset 9 et 10, ça dit, le 10e jour du 7e mois, qui est la même journée que la fête du Yom Kippour, la fête des expiations, tu feras retentir encore des sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Puis il dit, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. En parlant de ceux qui s'avaient donné à quelqu'un, parce que je dis, moi, j'ai besoin d'argent, là, je peux pas, je me donne à toi, je vais travailler pour toi, puis là, je te dois cet argent-là, puis je vais travailler. Puis s'il n'a pas fini de rembourser sa dette, mais cette année-là, il était rendu libre, il ne devait plus rien. Fait qu'il était tombé libre. Les deux fêtes de cette journée doivent nous rappeler que lorsque nous confessons nos péchés, il y a une libération. Dans 1 Jean 1,9, ça nous dit, si nous confessons nos péchés, parce que c'est le jour de Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voyez-vous, ça avait un symbole prophétique, ces deux fêtes-là. Tu confesses, tu obtiens une libération. Mais c'était toujours avant que Jésus revienne. Parce que ces fêtes-là se fêtaient avant qu'il revienne. On les fête là. C'est avant qu'il revienne. Donc, c'est pour nous faire penser à nous de le faire là, avant qu'il revienne. La fête des tabernacles, qui est la fête, ça veut dire des tentes ou des habitations. Le mot tabernacle, l'Église catholique en a fait un sac, un mot sacré, qu'on ne devrait pas utiliser, mais c'est pas un mot si sacré que ça. Ça veut dire maison ou une tente, une habitation. C'est ça que ça veut dire. Eux autres l'ont mis sacré parce qu'ils disaient qu'il y avait en arrière du curé, il y avait une petite boîte là qui était le tabernacle, qui était l'habitation de leur Dieu. Puis Dieu hostie qui était dans le calice, qui mettait ça dans le tabernacle. C'est pas un encensoir. L'encensoir, c'est à l'encens. L'autre, c'est un calice. C'est juste une coupe. Le mot calice, c'est coupe. Puis le tabernacle, c'est l'habitation de leur Dieu. Ils mettaient leur hostie là-dedans, fermaient la porte. C'est l'habitation de leur Dieu. Leur Dieu habite là, dans l'hostie. En tout cas, on n'est pas là pour parler contre cela, mais le point est que c'est pas des mots sacrés, mais pour pas les offenser, les chrétiens sont mieux de pas les utiliser. Nous, le commandement, ça dit de pas prendre son nom en vain. Le nom de l'Éternel, ça, là, il dit, car il ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Ça dit, c'est sûr qu'il y a un jugement qui tombe à chaque fois que quelqu'un prend le nom du Seigneur en vain. Ça, c'est pour nous apprendre la crainte de Dieu, puis de faire attention à ce qu'on dit. Puis si on a de la misère parce que notre bouche est sale, il faut demander une délivrance. Puis pour avoir la délivrance, on l'a vu dans l'autre fête, confessez votre péché à Dieu, demandez-y de l'aide, puis vous allez être délivré. C'est de même, ça marche pour tous les péchés. Là, on revient à la fête des tabernacles, qui est le Sukkot. C'est une fête qui durait 8 jours. Dans Lévitique 23, versets 33-36, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour du 7e mois. Ça veut dire qu'on avait une fête le premier, une fête le 10, puis là, la fête du 15, dans le même mois de ce mois-là. Ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, il dit le premier jour, il y aura une sainte convocation, c'est une réunion sacrée, une journée fériée, la première des journées, pareil comme la fête des pains sans levain. La première, elle dura 8 jours aussi. Puis la première journée, c'est la sainte convocation. Puis, il dit, tu feras pas d'œuvre servile pendant 7 jours. Puis là, après ça, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices, parce que là, c'est comme je vous disais, ces sacrifices-là, on peut plus les offrir aujourd'hui. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, qui est encore une réunion sacrée pour Dieu, de rencontrer Dieu. Puis là, il dit, allez encore offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, puis vous ferez aucune œuvre servile. C'est encore une journée de sabbat, le 8e jour, qui ne devait pas travailler. Fait que pour revenir au mot tabernacle, comme je disais tantôt, c'est une cabane, une tente, ou un repère, un abri, ou une maison. C'est la fête des cabanes. Ça peut être dit comme cela. C'est la fête des tentes aussi. Ils devaient fêter ça, eux autres, en se rappelant le temps qu'ils ont passé sous des tentes pendant 40 ans. Se rappeler que pendant 40 ans, le peuple d'Israël a tourné dans le désert, puis avant de rentrer dans la terre promise. Pour leur rappeler le détour de 40 ans à cause de leur désobéissance. Dans Lévitique 23, les versets 42 et 43, ça nous dit, vous demeurerez pendant les 7 jours sous des tentes. Comme je vous disais, cette fête-là dure 8 jours, mais ils vont être 7 jours à demeurer sous la tente, sous une tente. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, ça veut dire les étrangers comme le peuple d'Israël, tout le monde restait sous des tentes ou dans leur maison. parce que c'est dans leur maison. Tu restes dans la maison. Tu ne vas pas en voyage à quelque part, journée-là. Tu restes chez vous. C'est ça que ça veut dire. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Il dit, je suis l'Éternel. Fait que, ça, c'est la deuxième partie. Non, ça, c'est la première partie de la fête. Une fête qui dure 8 jours, mais les 7 jours sous des tentes. Puis, il y avait une convocation la première puis la 8e journée. Cette fête nous rappelle à nous, en tant que chrétiens. Quand on pense à cette fête-là, pour nous, les chrétiens, le message, ça fait parler de notre vie terrestre, nos souffrances, que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. C'est ça qui est l'idée. Rappelle-toi que tu es ici temporaire. Si quelqu'un est chrétien, il dit, ben moi, je m'installe pour l'éternité sur la terre, moi, là. Il pense rien qu'à acquérir les biens terrestres, puis il ne s'occupe pas à se préparer pour le retour du Seigneur. Non. On est des voyageurs sur la terre, on n'y tient que pour un passage. Puis un autre passage, il dit, il n'y a pas de soldat, s'il veut plaire, celui qui l'a enrôlé, qui s'embarrasse des affaires de la vie. Ça veut dire que dans l'idée, c'est qu'on n'est pas installé pour tout le temps, puis on est comme dans une tente, nous autres, avec, en attendant que Jésus vienne nous chercher. On est sur la tente, pareil comme le peuple juif, eux autres, ils ont été sous la tente pendant 40 ans avant de rentrer dans la terre promise. Nous, on est dans notre 40 ans d'attente, dans un sens symbolique, qu'on rentre, nous autres, dans la terre promise qui est le ciel. Amen. Dans 1 Pierre 2:11, ça nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Voyez-vous l'idée d'attendre qu'on est étranger sur la terre? On n'est pas installé en permanence, là. On est juste de passage, puis on attend le retour de notre maître. On le sait que la trompette va sonner, puis on le sait que ça en revient bientôt, puis on le sait qu'il faut être prêt. Puis on n'est pas là pour... On est là pour se rappeler que ma vie, c'est après, puis après son retour, là, on va être installé par le Seigneur lui-même. Il s'en va nous préparer une place, afin que là où ce qu'il est, nous autres aussi, on soit là. Ça va être spécial. Ça dit, nous gémissons dans cette tente, notre corps, avec la pensée de revêtir notre demeure céleste qui nous attend. C'est ça qui est le symbole. Dans 2 Corinthiens 5, 2 à 4, ça nous dit, « Nous gémissons dans cette tente, notre vie terrestre, on est des voyageurs sur la terre. Comme le peuple juif, ils ont gémi pendant 40 ans dans le désert avant de rentrer. Ben nous, on gémit dans cette tente, on désire revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Il y a encore toujours des conditions. Puis si du moins on est en train de veiller quand il va venir nous chercher, il y en a plein de conditions. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Le changement, en un instant, en un clin d'œil, clac, notre corps qui nous fait pécher, qui nous tiraille, qui a des convoitises, qu'on combat nos pensées et nos élans charnels, ça va être fini. On va être transformé au retour de Jésus. Pings! On se retrouve avec lui. Plus de tentations, plus de mauvaises pensées, que du bien qui sort de notre bouche, que des louanges à Dieu, puis être heureux d'être avec les frères et sœurs pour l'éternité. Ça va être hot. Le 15, qui était le début des sept journées de passer sous la tente ou dans leur maison pour se rappeler qu'ils sont en attente, c'était aussi une autre fête, le 15. C'était la fête des dernières récoltes. Il y a un passage qui en parle dans Exode 34, le verset 22, que Dieu dit, « Tu célébreras la fête des semaines, qui est la fête... » De la Pentecôte, qui durait 7 semaines, qui était la 50e semaine, qui était la fête de la Pentecôte. Tu vas observer la fête des prémices, de la moisson et du froment, qui étaient les premières récoltes qui étaient présentées à Dieu, puis Puis ça, ça a tout rapport aux récoltes, là. La première récolte, c'était à Pentecôte. Les prémices, c'était comme tout après Pâques, qui offrait les prémices à Dieu, puis il secouait ça de même devant Dieu pour être heureux de ce que Dieu leur donnait comme moisson. Puis tu vas observer aussi la fête de la récolte à la fin de l'année. Ce que nous, on appelle l'action de grâce, là, c'est pas biblique, la façon que c'est fait aujourd'hui. C'était pas ça du tout. La fête de l'action de grâce de Dieu, la fête perpétuelle, c'est la fête des récoltes à la fin de l'année, puis c'était fêté le 15, en même temps que le commencement de la fête des tabernacles. La vraie fête de Dieu. Aujourd'hui, on est très influencé et corrompu ou mêlé par les fêtes du monde catholique. La fête de Pâques n'a plus rapport avec la fête de Pâques. La fête de Pentecôte, ça n'a pas rapport avec la vraie fête de Pentecôte. La fête des actions de grâce, les fêtes de l'Éternel, les vrais, on ne les fait pas. Puis les fêtes des païennes, on se donne du chocolat. Voyez-vous, on a complètement perdu tous les sens des messages de Dieu et des fêtes de Dieu, puis de l'application. Comment Dieu demande que ça soit fait. Pourtant, c'était des fêtes perpétuelles, puis des fêtes qui devaient annoncer des choses à venir, qu'on est là dedans, ces choses à venir-là, comme je vous disais tantôt. Dans Lévitique 23, verset 39, ça dit, « Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrez donc une fête en l'honneur de l'Éternel pendant les 7 jours. » Pendant les mêmes 7 jours qu'ils étaient encabannés dans leur maison pour se rappeler qu'ils avaient été des esclaves, ils étaient en train de fêter aussi dans ces 7 jours-là une fête. Comment est-ce que Dieu a pourvu pendant l'année pour nos récoltes? Ça veut dire, tu te rappelles comment tu as souffert sur la terre, mais tu te rappelles aussi comment Dieu t'a béni puis t'a pourvu à tout ce que tu avais besoin dans ton pèlerinage. Tu rends gloire à Dieu pour ce que Dieu t'a donné dans tes récoltes. On devrait tous être en train de dire merci Seigneur présentement pour tout ce que tu nous as donné dans cette année comme récolte. Il y en a qui ne sont pas cultivateurs. Remerciez le Seigneur pour la paye que vous avez eue de travailler après de la mécanique ou après d'autres choses. T'sais? C'est ça qui est le but. Le pain sur la table qu'on a, c'est parce que c'est Dieu qui a pourvu. On prie, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, mais Seigneur, il a pourvu, on est encore le ventre bien plein à la fin de l'année. Merci Seigneur de nous avoir rempli notre ventre toute l'année. Puis ça devrait nous parler aujourd'hui, ces trois fêtes-là, frères et sœurs. Parce que c'est ça qui est le but. Il voulait nous parler de se préparer. Jésus revient. On est dans les trompettes, mais à la dernière, il revient. Faut être debout. Faut se repentir, faut confesser nos péchés, faut être libéré de nos péchés, faut être prêt puis debout puis en train de servir le Seigneur mais qu'il revienne. Puis rappelons-nous qu'on est ici que temporairement, on est en train de gémir peut-être dans notre tente, mais réjouissons-nous que Dieu pourvoit quand même à tous nos besoins. Attendons-le dans des actions de grâce et des prières, des louanges à Dieu. Viens, reviens bientôt, Seigneur. Amen.
Amen.
Seigneur, je te remercie pour ta parole, puis toutes les belles choses que tu nous donnes dans ta parole. C'est tellement beau. Merci, Seigneur, de nous réveiller, de nous ramener à l'ordre, puis de nous faire penser aux vraies affaires, qu'on est ici tant que temporairement, puis qu'on a à être debout en train de te servir quand tu vas revenir. On veut se rappeler tout ce que tu as fait, Seigneur, puis ce que tu vas faire dans la suite aussi, tout ce qui nous attend. Merci, Seigneur, de nous avoir rappelés. Merci de changer nos cœurs, nos vies par tes révélations, ta connaissance, par ce que tu nous enseignes, que nous donner une poussée pour aller de l'avant et te servir encore davantage. Merci, Seigneur, pour te rendre la gloire en toutes choses, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.